Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
Daniel, Kevin, commençons par le débrief du Brésil. 2-0. Ça a été poussif, première demi-heure compliquée face à la rudesse physique des Serbes. Est-ce que ce Brésil-là vous a quand même séduit?
Ça a été poussif. Quand en face, t'as une équipe qui veut pas jouer au foot, qui est venue, et le plus bizarre, c'est qu'en plus, ils alignent plusieurs joueurs offensifs et des joueurs qui en plus sont plutôt bons, c'est des vrais joueurs de ballon. On n'est pas dans le profil des ménageurs, hein. Il y a au moins 3-4 joueurs qui sont des beaux joueurs de foot, mais que malgré tout tu ne veux pas jouer, tu défends bien et que t'espères simplement de tenir et de pas craquer et de voir éventuellement si t'as une ouverture. Bon, on est dans un football minimaliste que moi je n'aime pas du tout. Je pense que vraiment les Serbes pourraient faire autre chose. J'ai oublié quand en plus t'as un entraîneur comme Dragan Stojkovic qui était quand même un sacré joueur de ballon. Moi, je suis très déçu de la façon dont les Serbes ont abordé la rencontre, du choix tactique qu'ils ont fait. Les Brésiliens poussifs, je suis pas d'accord parce qu'ils ont campé, ils ont tout le temps évolué dans le camp adverse. Alors si poussif, c'est parfois un peu maladroit, parfois un petit peu, ok, mais c'est normal aussi. Les autres défendent tellement bien que ça te pousse à être maladroit. Bon, finalement, ils ont fini par craquer, très logiquement. Ils prennent 2-0. Les Brésiliens sont à féliciter pour leur envie toujours de jouer, leur détermination, leur volonté de s'installer dans le camp de l'adversaire. Évidemment, on va y venir en discutant. Il y a pas mal de choses qui me semblent pas complètement parfaites. Je n'arrive pas à savoir et à me déterminer si c'est vraiment un cadeau de cette Coupe du Monde. Ils ont tout pour l'être, mais je sais pas s'ils le sont réellement. Il y a des joueurs, parce que je trouve que
pour moi c'est les ultra favoris, hein.
Mais je sais pas,
sur quelque chose d'inexplicable.
Après le problème c'est que pour l'instant, alors il y a quatre équipes là maintenant. On a vu tout le monde, hein. Pour l'instant on a
vu
tout
le bilan tout à l'heure,
on va faire le bilan, mais on a vu tout le monde. Quatre équipes semblent se détacher un petit peu maintenant, on va dire en satisfaction. Est-ce que les Brésiliens sont dans les cadors? Kevin a envie de les mettre là. Sur ce que j'ai vu ce soir, oui, forcément, parce que par rapport à tous les autres qui ont beaucoup déçu, ils sont là.
Pour moi, c'est pas un des cadors. Pour moi, c'est le cador.
Mais par rapport à ce que tu as vu depuis le début?
Par rapport à
ce qu'on a vu depuis le début, l'Espagne, c'est large au-dessus, en tous les niveaux.
Excuse-moi, Daniel. L'Espagne a joué contre une équipe de district. Donc, il y a un moment, le Costa Rica, je veux pas être méchant avec le Costa Rica, mais c'est à des années-lumière de la Serbie, en termes d'impact physique, en termes de qualité défensive. Et moi, là où j'ai aimé le Brésil, c'est qu'ils ont concédé quasiment aucune occasion face à la Serbie.
Et ils n'étaient pas venus pour ça, c'est ça le truc. Oui, ils ne sont pas venus pour jouer, la Serbie.
Oui, mais la Serbie, ils ne sont pas venus pour jouer au Portugal. Ils ont gagné 1-0, ils sont qualifiés, ils ont envoyé le Portugal en barrage. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très solide, qui est très forte sur coup de pied arrêté. Les Brésiliens ont bien failli prendre un but, d'ailleurs, sur coup de pied arrêté. Énorme défense de Danilo puis de Marquinhos. Donc non, les Brésiliens, ils ont été solides. J'ai trouvé Thiago Silva excellent, parce que c'est un mec qui a quasiment 40 ans, qui joue à 60 mètres de son but pendant 70 ou 80% du match. J'ai trouvé vraiment cette équipe très solide. Alors la seule mauvaise nouvelle, et on va en parler, c'est peut-être la blessure de Neymar. Mais moi, je pense que même sans Neymar, ils ont tellement de qualité offensive qu'ils peuvent arriver à faire une très grande Coupe du Monde. Et moi, pour moi, c'est l'équipe que j'attendais. C'est l'équipe qui m'a impressionné, parce que je pensais que ça allait être très difficile. Et ça l'a été contre cette équipe de la Serbie. Même si, Nicole disait pendant le match, les Serbes ont un peu levé le pied. Et ensuite, le Brésil a déroulé en fin de match. Mais quand je vois... Moi, le Brésil, c'est même pas leur potentiel, c'est leur banc de touche. Ils ont un banc de touche incroyable. Ils ont un banc de touche où franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu une sélection avec ne serait-ce que le deuxième gardien. Il serait titulaire dans n'importe quelle équipe de la Coupe du Monde.
Après, donc, ils peuvent faire sans Neymar, bien sûr. Alors voilà. Si jamais Neymar ne continue pas. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai entendu avec Roland dire les Français ont également eu des absents. Je n'étais pas d'accord avec vos comparaisons. Ce qui est équivalent par rapport au passé vécu ensemble en sélection, le seul équivalent, c'est si Mbappé se blesse.
Eh ben écoute,
c'est
pas écoute, tous les attends, joueurs que vous avez cités. Tu n'as pas écouté juste avant. Juste avant de dire ça, j'ai dit que dans les trois galactiques ou les trois stars du Paris Saint-Germain, le seul qui peut être remplacé par sa sélection, c'est Neymar par rapport à Messi et Mbappé. Voilà ce que j'ai dit. Les deux autres, s'ils sont absents, c'est mort. Leur sélection, elle ne sera pas championne du monde. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
J'ai pas compris.
Il explique que l'équipe de France sans Mbappé ne peut pas être championne du monde. L'Argentine sans Messi ne peut pas être championne du monde. Le Brésil sans Neymar peut l'être. Car il y a une profondeur, il y a des solutions.
J'aurais presque dit l'inverse.
Ah ouais?
J'aurais presque dit l'inverse. Oui, oui, parce que je pense que Neymar a un impact sur cette équipe, une attente focalisée autour de lui, qui est, je pense, supérieure. Alors pas Messi, hein, évidemment, parce que Messi, c'est une sorte de gourou, guide. Il ne voit, il ne joue que par lui. En revanche, moi, je sais pas. Je pense que ce serait. Je n'ai pas envie de me lancer dans ce jeu parce que ça me paraît un petit peu bizarre, difficile de le faire. Je pense que ce serait trois manques énormes pour leur sélection, mais là, ce soir, de toute façon, ça sert à rien d'en parler. Il y a que Neymar qui a l'air blessé. On n'a pas de news. C'est la cheville. Bon, est-ce que ça va lui faire rater un match, deux matchs ou plus? Je sais pas. Ne parlons pas. On verra bien quand ça. On verra bien.
Pleurer quand même. Hein.
Oui, mais il pleure tout le temps et pour rien. Donc, le problème de Neymar, c'est toujours ça. C'est que la plupart du temps, à 80% du temps, il est par terre pour rien. Et 20%, il est par terre pour grave.
C'est un émotif.
Et à l'arrivée, il pleure tout le temps. Donc on sait jamais avec lui. C'est quelqu'un qui joue avec les émotions. Ça se trouve, il est réellement blessé parce que c'est à lui arrivé très souvent d'être gravement blessé dans sa carrière. Donc on va pas lui souhaiter. Et puis voilà quoi. On verra bien. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Donc on verra.
Bon, on a l'image de la cheville sans la chaussette, hein, très enflée la cheville de Neymar.
Ouais, bah,
il y a des degrés de gravité différents. Hein,
demande au kiné, Kevin Nisset.
Non, mais là, c'est une entorse. C'est 10 jours minimum, une entorse comme ça. C'est clair. Avant 10 jours, tu ne seras pas à 100%.
10 jours, c'est le quart de finale.
Voilà.
Bah, 10, c'est le quart de finale.
Il te reste deux matchs, quand même. C'est le huitième de finale.
Le huitième de finale du Brésil, il doit être lundi de la semaine d'après.
Tu veux dire qu'il revient pour le quart, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
C'est minimum. Hein. Minimum, normalement, c'est 10 jours. Après, si c'est une petite entorse, si c'est rien, une foulure, mais là, tu peux en 2, 3, 4 jours, tu peux être. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Parce que là, quand même, sa cheville, elle a bien tourné, même s'il a quand même pas mal de laxité au niveau de la cheville. Mais il a eu aussi quelques blessures au pied, à la cheville. Le pire, c'est si c'est son pied qui est touché. Tu sais, tu peux aussi avoir une torsion du pied. C'est là où il a déjà eu quelques problèmes.
J'ai l'impression que c'est la cheville, Kevin, quand même.
Ouais, bah écoute, on verra après.
Bon, revenons, on peut revenir au match.
Et oui, et on va accueillir Clebson au 32-16. Salut Clebson.
Salut les gars, bonsoir.
Bienvenue dans l'After Intégral Coupe du Monde, Clebson. Tu nous as appelé à la mi-temps tout à l'heure.
Merci.
Brésilien de São Paulo, Clebson.
Voilà, tout à fait.
Contente?
T'étais pas inquiet hein, à la mi-temps, hein. T'avais raison.
Bah écoute, je l'avais dit hein, que en fait je vois le match, on voit que c'est fermé, mais dès que le Brésil arrive à marquer, après ils vont sortir un peu. Après ça joue. Après on arrive à courir, on arrive à dribbler, on arrive à faire du passe parce qu'avant c'était trop lourd, trop difficile. Et nous on était un petit peu trop loin un des autres. Neymar avec Rafinha, avec Vini, donc il faut s'approcher un peu. Dès qu'on a trouvé la place en fait pour s'approcher, pour faire le match, bah ça y est, ça commence à jouer.
Et qu'est-ce que t'as pensé de ce golazo incroyable de...
Ah ça oui. Je suis désolé les gars, mais il manque son contrôle, Richarlison.
Non, il manque pas son contrôle du tout.
S'il manque pas son contrôle,
Il manque son contrôle, Kevin.
Tu peux pas faire la fine bouche sur ce but,
non,
quoi.
Écoute, il manque son contrôle.
Il lève la balle, après le geste, il est parfait, l'équilibre, il est magnifique.
Est-ce que Clebson, t'es d'accord avec moi pour dire que c'est un but de football play? C'est un but de beat soccer, ça?
C'est exactement ça qu'on arrive à le faire. Hein. Après, il n'a pas raté son contrôle. C'était exprès. Regarde, quand il touche le ballon, qui vient.
Ah non, les gars. Alors autant là, je suis pas d'accord sur le exprès. C'est après, il récupère avec classe et inspiration. Oui. Et c'est ça aussi le foot. C'est de l'inspiration, de la créativité. Le ballon, le contrôle main, il se la lève. Et là, d'un coup, bah, c'est ça aussi le génie. C'est que le mec, bim, il envoie un geste magnifique. Et d'une erreur, il fait un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que c'est un but extraordinaire, vraiment.
C'est ce que disait
la vérité, je ne savais même pas que Richarlison pouvait faire un geste de classe comme ça, parce que ce n'est quand même pas un attaquant que je rangerais dans mes préférés habituellement. Mais là, bravo, quoi, c'est le plus beau but depuis le début de la Coupe du Monde.
Ouais.
Et il y a eu les buts magnifiques de l'Espagne dans leur construction. La reprise de volée extérieure du petit Gavi, elle était très très belle. Là, c'est un geste technique.
Tu l'as fait aussi, Daniel. La reprise de volée de Gavi, tu l'as fait aussi.
Ah, ok, Kevin. Alors, tu sais quoi, en fait, si tous les buts, c'est de la merde, parce qu'on est tous capables de les faire, bon, on arrête tout de suite, je dis.
Non, ce que Kevin voulait dire, c'est que lui, il peut le faire.
Un mauvais contrôle, machin.
Il a un centre, il a un entrée
de la surface, il met un extérieur pied et tout. Ben, si tout le monde peut le faire, bon, bah, ok,
mais
Kevin. Alors, tout le monde peut le faire.
C'est pas moi qui dis.
Tout le monde peut le faire, alors.
Mais j'ai pas dit Richarlison, tout le monde peut le faire. J'ai dit que c'était un but.
Mais moi, j'ai chambré, les gars.
Gavi, c'est pas un beau but.
Un beau but, mais c'est pas Richarlison, que ça n'a rien à voir.
Non, mais je t'ai dit que c'était Richarlison. Je t'ai dit les plus beaux buts depuis le début de la compétition. Après, tu les mets dans l'ordre que t'as envie.
Moi, j'ai bien
mais
aimé
après le but de Richarlison, il y en a pas eu beau. Il y a pas eu des buts qui nous ont fait lever, quoi.
Ah, j'ai bien aimé le plat du pied magnifique en pleine course de Rafael Leão, par exemple. Très dur comme geste.
Ça se défend aussi. Ah ouais, c'est moins spectaculaire.
En même temps, s'il ne nous plaçait pas immédiatement un Portugais, on ne pouvait pas passer une soirée.
Là, il place un Brésilien, Richard Lesson, un Portugais, Raphaël Léon.
Évidemment,
la famille lusophone.
Je me disais, en même temps que je parlais de Gavi, je dis, attends. Essaye de rappeler vite dans ta tête les buts et les trois buts portugais, parce que sinon, Kevin, il va mal le prendre.
Je vais le mettre
en 3. Si tu veux bien, 3, tu me l'acceptes en 3, Kevin, ça va aller.
Oui.
Allez, c'est vendu. Ok, la négo finie.
Allez.
Bon, voilà les gars, on passe à autre chose. C'est bon. Ismar Clemson au 32-16. Bon, Clemson, Neymar, est-ce que t'es inquiet? On n'a pas encore de diagnostic pour lui. Est-ce que tu penses que le Brésil peut s'en tirer pendant un temps sans Neymar? Oui.
Bah si, maintenant on peut. Regarde, maintenant, t'as vu, il est sorti. On a réussi aussi à créer toujours, à faire un beau match. On a continué. Bien sûr qu'avec lui, c'est une chose. Son Neymar, c'est une chose. Mais là, il a compris déjà qu'on peut pas être dépendant. Attend toujours, la technique, le magie de Neymar. Donc, il a réussi déjà à comprendre ça. Donc là, il a dans sa tête une équipe qui pourra aussi jouer son Neymar. Et ça, on voit, tu sais, quand il rentre, bien sûr que c'est pas la même qualité, on parle pas de qualité, hein. On parle pas de, voilà, quoi, mais si t'as un Tony qui rentre, t'as même Rodrigo qui rentre, que t'as, il essaye de donner un peu de, tu sais, de ce que Neymar donne. Il y a pas un autre comme Neymar, n'importe où. Mais,
si Neymar ne joue pas, ne démarre pas un match, moi, c'est pas un mec comme Anthony que je mets à sa place.
Moi, je mettrais un mec plus costaud défensivement.
Et je
dis à Paqueta de monter d'un cran.
Exactement.
Et je mets Paqueta dans une position plus haute.
Moi, je mettrais même Fabinho. Ah ouais. Je mettrais Fabinho ou Fred, hein, qui est bon avec le Brésil, mais je mettrais Fabinho ou Fred pour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que si Neymar est absent et si le Brésil, par exemple, prend une grosse équipe en huitième de finale, je ne sais pas avec qui il croise le Brésil, vous allez me le dire, mais derrière, je mettrais vraiment une équipe un peu plus costaud encore pour avoir encore plus d'équilibre. Parce que tout le monde est capable de se projeter dans cette équipe, on le sait.
Ce serait l'Espagne, hein, Kevin, en quart éventuellement. Ah, voilà, éventuellement.
Bah, tu prends l'Espagne, tu peux renforcer quand même ton milieu de terrain.
Ou l'Allemagne, d'ailleurs. Ou le Japon aussi, peut-être.
Mais non, parce que l'Allemagne, pour passer en première, il faut gagner tous les matchs. Donc ils ont la morale un peu, je sais pas. Apparemment, ce que je vois, ça va être Uruguay.
Mais non, Uruguay, je sais même pas s'ils vont aller en huitième. Là, franchement, on les a vus aujourd'hui. C'est une équipe qui est finie. T'as Suarez qui a passé une saison à s'entraîner près du barbecue. Là, c'est fini. Il fait 200 kilos, il avance plus. Franchement, l'Uruguay, je les vois pas là. C'est une équipe qui est mais au bout du bout, quoi, vraiment.
Merci Clemson d'avoir fait le 32-16. Pour en revenir au Brésil, il y a quand même. On va faire une pause et on va revenir au Brésil. D'accord. On va juger notamment la prestation de Lucas Paqueta. J'aimerais bien qu'on en parle également. Comment vous l'avez trouvé? On nous le vend effectivement, à juste titre, hein, comme un rouage central, essentiel dans le système de Teach. On va faire une évaluation du Brésil parce que c'est toujours un événement, les gars. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est comme un 100 mètres aux Jeux Olympiques quand le Brésil entre dans un mondial. C'est un événement. Restez avec nous. Vous écoutez l'After intégral Coupe du Monde sur RMC. Il est minuit 16 à Doha, 22h16 à Paris. Daniel Riolo, Kevin Diaz sont à mes côtés. On parlera bien sûr du Portugal tout à l'heure, de la victoire de la Suisse, des invités à venir, des supporters seront là également. L'After, comme tous les soirs pendant le Mondial, sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. A tout de suite.
RMC After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Vous écoutez l'after intégral Coupe du Monde sur RMC, 22h20 à Paris, minuit 21 à RMC, l'after comme tous les soirs pendant le Mondial sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde, tous les soirs jusqu'à 1h du matin. À minuit, nous passons le relais à Nico Villas et Thibaut Giangrande. Le Brésil s'est donc imposé 2-0. Je vous rappelle également que pendant le Mondial, grâce à RMC et Foot Corner, vous allez pouvoir remporter des maillots des équipes nationales. Et aujourd'hui, vous allez gagner le maillot du Brésil. Pour le remporter, il faut envoyer foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16. Il a vu la lumière, il est entré. Bonsoir, Oussem Le Saïef.
Salut Nico, bonsoir tout le monde. En plus, elle est très forte la lumière.
Elle est très forte, trop forte. Mais c'est pour Twitch parce que nous sommes en direct.
Vous êtes ah non, je ne parlais pas de cette lumière-là, je parlais de votre présence dans ce studio.
Ah, d'accord, merci.
Flagrant.
Toujours ça va, Kevin. Des gens qui flagorent.
Non, mais parce que j'ai entendu Kevin surtout parler de ce qu'il était capable de faire techniquement, c'est pour ça aussi.
Kevin Diazella, Daniel Riolo aussi. Le Brésil. Avant d'accueillir Alex, supporter de la Serbie au 32-16.
J'étais en train de dire quelque chose sur le Brésil.
Vas-y.
Sur le Brésil, les grandes équipes, celles qui sont championnes du monde. C'est la première fois que je vois un Brésil que pourtant je continue de considérer et à mettre dans le chapeau des favoris, avec des latéraux aussi faibles. La grande tradition des latéraux brésiliens, c'est quand même quelque chose, quoi. Et quand ils ont brillé, c'est souvent avec des latéraux forts. Au minimum, quand c'est pas les deux, c'est au moins un des deux, quoi. Quand c'est juste Branco en 94, quand c'est Roberto Carlos, Marcelo, Cafu à droite, Dani Alves, toutes les grandes équipes du Brésil en ont eu. Là, ce que je vois de ces deux-là, qui sont quand même un peu fatigués, qui montent pas beaucoup, qui apportent pas grand-chose au jeu, ça donne un petit peu moins de mouvement. Alors, ils ont deux gars qui sont des vrais ailiers, pour le coup, qui peuvent apporter. C'est également des mecs qui aiment rentrer à l'intérieur, donc c'est pas des vrais gars de débordement. Bon, je sais pas, c'est le seul point qui me déçoit un peu dans leur jeu. Pour le reste, il y a beaucoup de mouvements, il y a que des joueurs de classe, que des joueurs de grand talent. Évidemment qu'ils sont dans mon top 3 pour gagner la compétition. Mais j'ai ces petits bémols à porter à leurs prestations, quoi, ces deux mecs-là. Et pourtant, ce soir, j'ai pensé, en plus, j'ai pensé à tous ces grands gauchers qui avaient des frappes de dingue quand Sandro a mis la frappe sur le poteau. Et j'ai pensé, je me suis dit, tiens, voilà, il tente un truc.
Il a une bonne frappe, hein.
Ouais, voilà, mais c'est ça m'a fait penser aux latéraux brésiliens.
Non, mais je suis d'accord.
Et surtout au gaucher qui a des belles frappes. Et c'est vrai, il y a une vraie tradition de super grands latéraux au Brésil. Les deux qui sont là sont très moyens, quoi.
Non, mais enfin, je pense que je
suis d'accord.
Vas-y, Kevin.
Je suis d'accord avec Daniel. On l'avait dit d'ailleurs il y a quelques semaines quand on a parlé du Brésil que leur seul point faible, entre guillemets, même si moi j'adore par exemple leur latéral remplaçant, même si son prime est passé malheureusement à Alex Telles. Mais c'est vrai que c'est le domaine de jeu là où ils sont moins bons. Mais, si on regarde bien, messieurs, dans le football moderne aujourd'hui, mais quelle sélection a deux grands latéraux, en fait. Si tu regardes l'Allemagne, si tu regardes l'Espagne, Jordi Alba, il est vieillissant, il n'y a personne derrière.
Ouais, mais il a été excellent l'autre soir. Jordi Alba,
il y a du monde derrière, Kevin.
Vieillissant, il a fait un match énorme l'autre jour.
Mais c'est plus
Kevin, Baldé, dans pas longtemps, il sera là.
Non mais d'accord, mais c'est plus Jordi Alba de l'époque, tu vois.
Non, évidemment. Oui, d'accord. Il a été très bon le soir.
J'ai pas fini. Regarde, la France, il y a pas de latéraux. Au Portugal, il est gentil Guerreiro, mais j'espère vraiment vite que Nuno Mendes va prendre la place.
Donc t'es en train de nous dire qu'après l'époque où le football,
Je le pense parce qu'aujourd'hui, regarde, dans toutes les équipes, les latéraux, et c'est aussi à cause de l'avènement des pistons et des joueurs très offensifs, c'est-à-dire que les latéraux aujourd'hui, ce sont soit des défenseurs centraux reconvertis latéraux, comme c'est le cas en équipe de France, soit ce sont des attaquants reconvertis latéraux, mais qui savent pas défendre. C'est Alexander Arnold, Jonathan Klose, je vais pas dire qu'il sait pas défendre, mais voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas été pris, on considère qu'il peut pas jouer à 4.
Les Anglais ont été pas mal l'autre jour avec Trippier à droite, qui était bon.
C'est la seule sélection qui a des latéraux avec notamment Trippier, mais également Rhys James qui s'est blessé.
On fera un bilan tout à l'heure, les gars. On va égrener les sélections qui vous ont plu dans cette première journée de la Coupe du Monde. Restons sur le Brésil avant la Serbie. Comment vous jugez le match de Paqueta, par exemple? Je le disais, un Tite couvre de laurier Paqueta dans un rôle plus défensif qu'on lui a connu à Lyon notamment.
Vous
les trouvez central ce soir?
C'est très curieux parce que moi je n'arrive pas. Alors évidemment Richarlison parce qu'il met un doublé et il va être l'homme du match. Mais pour le reste, j'arrive pas. Alors qu'ils ont dominé évidemment. Ils ont passé tout le match dans le camp adverse. Ils sont au-dessus. Ils méritent 100 fois de gagner pour tout. Mais j'arrive pas à sortir un Brésilien.
Moi j'en ai un aussi.
Ils ont tous été à la fois bons, moyens.
Casemiro, je l'ai trouvé exceptionnel dans la régulation, justement.
Bah, parce qu'il a, effectivement, parce qu'il a eu un rôle obscur d'un régulateur. Bon, mais bon, dans les gars qui devaient se mettre en évidence, j'ai pas trouvé qu'ils avaient été dingues.
Bah, tu vois, Daniel, alors, dingue, parce que si t'attends aussi que d'un Brésilien qui mette un triplé, c'est sûr que ça va être très difficile sur cette Coupe du Monde. Mais moi, je trouve qu'un joueur comme Vinicius Junior, il progresse de match en match. Oui, à chaque fois qu'on le voit.
Chez ce soir, quand même.
Oui, mais tu vois, à chaque fois qu'on le voit, les décisions.
Bon, moi, je l'ai vu beaucoup mieux que ce soir.
Bien sûr. Oui, mais regarde aujourd'hui, les décalages, c'est lui qui les fait, c'est lui qui rentre dans l'axe.
On l'a vu mieux que ce soir. Neymar, on l'a vu mieux que ce soir. Rafinha, on l'a vu mieux que ce soir. Tu vois, globalement, la prestation, elle est claire. Ils ont dominé, mais la prestation, elle est pas dingue. La prestation des Brésiliens, d'un point de vue. Alors, c'est vrai qu'il y avait les Serbes qui étaient très costauds.
Oui, parce que,
franchement, les mecs, ils peuvent faire une équipe de MMA, les Serbes, derrière, tellement ils envoient à l'impact.
Tu t'attends à quoi, toi, d'un
Brésilien? Ils jouent pas contre le Costa Rica, les mecs.
Non, mais. Tu t'attends à ce qu'il fasse une différence individuellement?
Non, il faut prendre en compte l'adversaire qui a mis beaucoup d'impact et qui physiquement, je sais, il y a de la brutasse. Mais une fois que tu as dit ça, tu peux également constater que les Brésiliens ont pas fourni un match de très haut niveau. Ils ont dominé sans que tu puisses dégager des individualités, des gestes. Mais bon, après, le geste du match, c'est Richarlison, le plus beau but du mondial. Donc tu vois, ça, on a une impression qui est un peu bizarre quand même, je trouve, sur ce match.
Après, comme tu le disais la dernière fois, pour l'équipe de France, le premier match d'une compétition comme ça, avec la pression, il faut le gagner. Et franchement, gagner ce match-là 2-0 contre la Serbie, qui certes n'est pas la plus grande équipe, mais quand même est une équipe avec beaucoup de qualité,
solide,
qui propose peu, mais qui est très solide, très costaud. Alors, est-ce que c'est la meilleure équipe du groupe derrière le Brésil? Moi, je le pense, même si la Suisse, c'est aussi une équipe assez ennuyante à jouer. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit football champagne lorsqu'on va voir Suisse-Serbie. Mais voilà, c'était difficile. On parlera tout à l'heure du Portugal. C'est difficile de jouer le Ghana, premier match. Donc, ce qu'il faut, c'est gagner. Et puis après, on verra si une dynamique s'installe.
Est-ce que pour Kevin, on peut poursuivre l'after? Il reste seul jusqu'à 4 du mat, juste pour le Portugal.
Non, pas du tout.
Il doit être comme un fou.
Je sens qu'il trépigne depuis tout à l'heure, il n'en fait plus. À chaque phrase, il essaye de glisser un truc.
Exactement.
À chaque phrase.
Ça parlait de Guerrero, il a parlé de tout le monde.
Non. Viens Nico après, là, de minuit à une heure, ou plutôt faites une spéciale tous les deux.
Non. Ce soir, je retourne.
Ça s'appelle Yoga, c'est un podcast.
Ce soir, Daniel, je ne peux pas rester après minuit, je retourne à Clairefontaine avec mes collègues pour passer le diplôme, donc non, j'ai pas le temps. Raconte
sa vie, il a raison, Kevin. Kevin, c'est double emploi.
Daniel, il me demande, je lui réponds.
Il a une formation d'entraîneur.
Exactement.
J'espère qu'il ne sera pas un entraîneur sympa.
Je salue tous les entraîneurs parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui écoutent l'after.
Je trouve que tu as progressé dans tes analyses de match.
Et qui me parle de Daniel Riolo. Tout le monde me parle de Daniel Riolo.
Ah ouais, forcément en bien.
Pareil.
Bien
sûr, non, c'est pas sûr. Ça en général. C'est tu montes dans un taxi à Paris. Travaille à RMC. Ouais. Alors, il est sympa ou il est en vrai, Daniel, ou il est comme à la radio?
Et lorsqu'on leur dit la vérité, ils sont déçus.
Allez, les gars. J'accueille Alex.
Oui, en fait, ils aimeraient que je sois méchant. Et c'est pas le cas, merde.
Alex, supporter de la Serbie. Salut, Alex. Alex, es-tu là?
Oui, je suis Alex. Là. Bonsoir.
Bonsoir, Alex. Merci d'être venu, Alex. Alors, tu as entendu Daniel à l'instant.
Il pour Daniel et. Parce
vas-y.
Que je sais que les Italiens supportent la Serbie vu qu'il y a 11 joueurs en Serie A. ce que je voulais vous dire, je suis vraiment déçu par notre équipe là, de la Serbie. Le Brésil, juste un petit mot sur le Brésil avant de parler de la Serbie. Le Brésil, franchement, moi je trouve que, comme tu disais, Daniel, je suis d'accord, il n'y a pas de grands latéraux, tout ça. Mais sinon, l'équipe est à peu près pour moi la même qu'en 2018. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, le match contre la Belgique, les 5 dernières minutes d'arrêt de jeu, enfin entre la 88 et 93, les Brésiliens avaient eu 5-6 occasions dans les dernières minutes, en 30 secondes de transition. C'est-à-dire que la balle, elle part de Thiago Silva, elle arrive par un milieu, elle arrive sur Neymar. Et je trouve que le Brésil a manqué de chance à l'époque, en 2018. Mais c'est le même Brésil, c'est-à-dire qu'une grosse équipe, une équipe qui va sortir un gros match pourra sortir ce Brésil-là, c'est tout.
Oui, Alex, je suis parfaitement d'accord. Elle a le profil à se faire gifler en contre ou à se faire braquer un match. Elle a le profil.
Après, comme vous le savez, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Donc ce Brésil-là est très fort, mais moi je suis déçu, mais bon, j'ai vu ce que Stojkovic disait. Nous, on a nos trois gros joueurs offensifs qui sont Mitrovic, Vlahovic et Kostic, qui ont été blessés ces dernières semaines.
C'est sûr, c'est
et
sûr.
Et qui ont été convalescents. Et je pense que Pixis, ce qu'il a fait, il a voulu faire un match nul, détonner un peu. C'est ce qu'il a fait en première mi-temps avec des joueurs qui ne jouent jamais, comme Mladenovic et d'autres joueurs.
Alex, voilà, Alex, moi j'ai demandé tout le match, hein, Nico pourra te le dire, qu'est-ce qui se passait avec Kostic,
ce que je me disais. J'ai regardé
un peu partout, j'ai pas trouvé, ouais, mais je l'ai dit, hein, pour moi, comme tu l'as dit, c'est les trois meilleurs, avec Tadic, même s'il est un peu
plus,
mais c'est les trois meilleurs joueurs, franchement, contre le Portugal au mois de, c'était quoi,
enfin, bref, au mois de novembre, il y a un an,
ils m'ont impressionné au stade de Dalouche, ils ont roulé sur le Portugal, donc je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, mais en effet, il faut qu'ils retrouvent leurs deux autres meilleurs joueurs.
Le rythme.
Il y a une stat, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi, on était dans un pub, tous les supporters serbes ont organisé un pub sur Paris. J'ai vu à un moment donné, à la fin du match, Casemiro et Paqueta ont perdu à U2 plus de 30 ballons. On n'a pas su profiter de ça. À chaque fois, Sergueï, Lukic ou Goudel leur prenaient la balle, ils la reperdaient derrière. Donc voilà, le deuxième rideau brésilien était pas mauvais. Moi, je pense que Pixi, il a juste merdé sur une chose. Quand il a obtenu le match nul en première mi-temps, il aurait dû partir offensivement en deuxième mi-temps, parce que ça savait que le Brésil allait mettre la pression et on n'avait rien à perdre. Donc,
oui, mais voilà. Alex, tu peux pas faire ça, parce que imagine, pourquoi tu n'as pas les armes. Déjà, on voyait que plus on avançait dans le match, plus physiquement la Serbie était un peu plus en dedans. Mais comment tu fais Comment tu fais pour remettre du jus?
Tu sais,
en général, les entraîneurs à ce moment-là, et Kevin, il pourrait te le dire, ils font une chose très simple, ils prennent aucun risque. Parce qu'il dit, si j'enlève un joueur, ça va déséquilibrer.
Il a raison, Alex,
je te rends la parole après.
En fait, l'entraîneur, souvent, qu'est-ce qu'il va se dire face à une telle équipe que.
Si je touche à mon équipe, je déséquilibre.
Jusqu'ici, tout va bien. Donc, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'au moment où tu prends un but, et là, t'en viens à faire des changements. Peut-être que tu as raison, peut-être qu'il faut être protagoniste et tenter de changer quelque chose pour surprendre le Brésil, pourquoi pas leur mettre un but en contre, quitte à faire un partout derrière. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Ouais, c'est vrai, mais bon, je vais te dire un truc, tu sens que le Brésil commence à attaquer, 50e, 55e, ils ont le poteau, ils ont les occasions. Ensuite, Richarlison, par exemple, son deuxième but, c'est incroyable, Veljkovic, je le regarde, mais un Vidic se serait jeté avec la tête et le nez sur lui, tu ne laisses pas mettre une reprise de... Vous avez tous joué au foot, mais tu te jettes sur lui, si tu vas faire même péno, peut-être tu tombes, mais tu le regardes pas comme ça.
Mais tu sais quoi, je pense qu'il a été surpris comme nous tous devant notre télé. On s'attend pas à ce qu'il dégaine aussi vite un ciseau.
J'ai vu un match, première mi-temps, où on a tenu un peu les meubles avec les joueurs qu'on avait. Mais deuxième mi-temps, moi je te dis que tactiquement, Pixi, regarde, ça fait un an qu'il est sélectionneur de la Serbie. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que carrière de coach? Il n'a pas fait grand-chose, un peu le tapon, la Chine. C'est son premier mondial en tant que coach. On verra par la suite.
Il a plus le nom et l'image que pour l'instant le CV.
Donc, Cameroun, on verra bien. Voilà, on verra bien là sur les deux prochains matchs. Il faut prendre 6 points et voilà.
Ouais, c'est...
On a une meilleure équipe qu'en 2018, donc pas de raison de ne pas être confiant et voilà. Et surtout qu'après ça peut s'ouvrir les huitièmes. Hein. Vous avez vu Portugal, comme vous disiez, Uruguay, tout ça.
Va pas trop loin quand même, Alex, si tu permets.
Excuse-moi.
Parce qu'avec ce qu'on a vu là, je.
Ouais. Les Suisses ce matin, ils n'étaient pas meilleurs que les Camerounais.
C'est vrai, c'est
entre les matchs de Coupe du Monde également. C'est dur à juger sur une autre en liste.
Non, mais si tu veux faire quelque chose en Coupe du Monde, tu dois battre la Suisse et le Cameroun, c'est tout. Si tu les bats pas, tu peux pas rêver d'un huitième ou quelque chose. Voilà.
Et ce sera lundi, hein, Cameroun, Serbie et Brésil, Suisse. Merci Alex d'avoir fait le 32-16. À très vite.
Quand tu veux
dans l'after sur RMC les gars. Alors image également de Neymar dans le tunnel qui retrouve le vestiaire en boitant. Sans sa chaussure, sans
la cheville gonflée
également, la cheville gonflée.
Maintenant, le dramaturgie.
Mais là, c'est parti pour plusieurs jours. Mais il pose le pied, Kevin, hein, quand même. Hein. T'as vu? T'as vu la séquence? Il pose le pied, il marche.
J'espère pour lui 10 jours.
Il boite, hein.
10 jours, c'est possible.
Pour toi, c'est 10 jours minimum.
Ah, si tu
boites. Ça peut pas être moins, franchement.
S'il est là au prochain match, tu te retires ton diplôme. Hein. Tu vas arrêter de nous faire chier avec le physio, le kiné, les crèmes et compagnie.
Après, hey, Daniel, j'ai pas vu quand même le. J'allais dire en anglais le MRI, mais j'ai pas vu le.
C'est l'IRM.
T'es sérieux, Kevin, là?
Sérieux,
la grévine en anglais. On arrête là, les
gars. Passons, laisse-le dans.
Attends, moi je suis
il est dans une autre dimension.
Il est dans les milieux médicaux.
Ça fait une semaine.
J'ai Sky, Kevin, maintenant.
Ça fait une semaine, mais il a une ambition internationale.
Intégrer un staff. J'accepte, mais pas pour l'IRM. Non, pour l'IRM. Arrête, Kevin. Attends, juste.
Il faut savoir.
T'as dit comment, Kevin? T'as dit comment IRM en anglais?
MRI. Il faut savoir une chose.
Il est mal. On est chez les fous, les gars. On est chez les fous.
Non, mais les gars, je vous explique.
Depuis le début de la semaine, il fait ça.
Mais non, fou.
Les expressions, tout, il n'arrête pas. Mais moi, je trouve que ça donne un
style. À quel moment tu passes une RM en France?
Il faut. On te dit,
mais les gars, laissez Kevin avoir un style. Aux Pays-Bas, c'est le même nom. Emery, vas-y, Kevin. C'est le même nom au Pays-Bas. Emery, ils disent comme ça. Donc voilà. Mon truc, il est Emery,
c'est aussi l'entraîneur espagnol, mais pour toi,
voilà,
c'est
voilà. Bon, bref, ils disent comme ça. Donc faut savoir que je suis un peu fatigué quand même. J'ai un gros programme. Donc,
nous,
les mots
nous,
me viennent en anglais.
Nous.
What do you want? C'est comme ça.
Alors, les gars,
tué.